Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, bienvenue, retour dans l'émission de ce soir sur ce qui se joue actuellement à Alep, au nord de la Syrie. C'est en mai 2012 qu'une partie de la ville se soulève contre le régime de Bachar al-Assad. Le début d'une partition, les quartiers ouest contrôlés par le régime, les quartiers est aux mains de l'opposition. 4 ans plus tard, dans Alep-Est, la situation a viré au cauchemar, les réserves de nourriture se sont épuisées, la famine a menacé, les infrastructures encore debout, comme les hôpitaux, sont régulièrement bombardées par l'armée. Mais russe, fidèle en ce sens à la politique de la terre brûlée pratiquée par Damas. Le 15 novembre dernier, alors que la Turquie se détourne du front Alepin pour se concentrer sur la lutte contre le IS, les troupes pro-Assad lancent l'assaut final. Les quartiers rebelles tombent les uns après les autres aux mains des unités d'élite de l'armée syrienne assistées par des milices chiites. Subsistent à l'heure où nous parlons de minuscules poches rebelles sous le feu des bombardements de nouveau aujourd'hui, alors que la communauté internationale, vous le savez, réclame sans l'obtenir une réelle trêve humanitaire, signe peut-être d'une bataille trop importante pour lâcher du lest. Alors la bataille d'Alep est-elle un tournant de la guerre en Syrie? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités à mes côtés en studio. Cédric Mas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, avocat, auteur de nombreux posts sur un blog, curultais.fr. Notre deuxième invité est avec nous en direct par téléphone, Arthur Quenet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant en sciences politiques, enseignant à Paris 1, auteur de « Syrie, anatomie d'une guerre civile » et vous avez passé du temps avec les insurgés à Alep en 2012 et 2013. Arthur Quenet, pour vous, la chute d'Alep marque-t-elle un tournant de la guerre en Syrie?
La bataille d'Alep est sans aucun doute un succès pour le régime. Pourtant, c'est un succès à court terme pour deux raisons. Premièrement, la guerre n'est absolument pas finie et va coûter encore de nombreuses ressources au régime, énormément de victimes à la population civile. Le régime, en ayant concentré ses troupes dans le sud de la Syrie pour protéger Damas et dans le nord pour reprendre Alep, a complètement dégarni ses flancs. On a vu Palmyre qui est retombée entre les mains de l'État islamique il y a donc peu de temps.
Arthur Quenet, vous nous entendez ? Non, alors bon, on va peut-être essayer de vous rappeler. En attendant, Arthur Quenet a déjà dit beaucoup de choses. Cédric Mas, est-ce que déjà vous êtes d'accord pour dire que cette bataille est incontestablement un succès pour le régime, mais un succès à court terme, ou bien vous avez une analyse différente ?
Alors, j'ai exactement la même analyse, puisqu'il est difficile de contester que c'est un succès pour le régime qui conquiert l'une des plus grandes agglomérations syriennes et qui signe ainsi une stratégie qui a été la reconquête des villes. À tout prix, y compris par la destruction et par la fuite en faisant fuir les habitants. Mais ce succès est également à court terme. Tout d'abord pour savoir qui a vaincu à Alep. Est-ce que c'est réellement le régime de Damas et non pas plutôt ses soutiens, et particulièrement les Iraniens qui sont en grand nombre? Vous avez très justement signalé les milices chiites iraniennes, irakiennes, afghanes, libanaises, les éléments du Hezbollah, mais ils sont très importants et ce sont eux qui ont fait la différence à Alep notamment. Ce qui est intéressant de signaler, c'est que cette victoire signe l'achèvement d'une reconquête qui a commencé dès la fin 2012 et le début 2013. Il faut bien comprendre que à Alep, les rebelles n'ont fait que subir régulièrement des contre-coups, puisqu'au départ, ils contrôlaient presque 80%, 80-85% de la ville, et aujourd'hui, ils en contrôlent de 2% à peu près, le quartier Bustan al-Aqsa, Al-Qsar. Et cette reconquête s'est faite par étapes successives dans le cadre d'un effort qui a été permanent du régime et de ses soutiens.
Donc il y a eu un renforcement il y a un mois avec cet assaut final qui a été lancé, mais finalement l'objectif est là depuis très longtemps, c'est ce que vous nous dites. Alors juste pour revenir, vous nous dites donc une victoire à court terme, la guerre n'est pas finie, ça veut dire que ce n'est pas la victoire pour Bachar al-Assad qui signe là une sorte de survie politique?
Alors, il va survivre, mais en fait, sa survie, elle s'est signée par les offensives qui ont été lancées après l'engagement russe à partir de septembre 2015, en fait. Puisque la réalité, c'est que cette victoire parachève un mouvement de balancier où le printemps 2015 signait quelque part l'essoufflement et un régime au bord de l'effondrement. Et puis, par l'engagement massif iranien et un engagement beaucoup plus technique, technologique, notamment aérien des Russes, et beaucoup plus ciblé, eh bien, ils ont pu réinstaurer une chance pour le régime de Damas et de Bachar al-Assad de survivre.
Alors, Alors, jusqu'où cette chance de survivre, ça donne quoi comme force au régime de Bachar al-Assad? Parce que il est politiquement, financièrement très très affaibli aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette nouvelle force que lui donne cette victoire à Alep?
Alors, c'est justement le problème. Qui a vaincu à Alep? Est-ce que c'est réellement le régime de Damas? Est-ce que ce ne sont pas plutôt les soutiens qui vont pouvoir dicter leurs conditions? Dans quelle mesure le régime va pouvoir tenir? Eh bien, en fait, cette victoire va permettre de prolonger les combats. Et tout va dépendre aujourd'hui des leçons que vont tirer ou non les rebelles de leur échec à Alep, qui est quand même un échec très symbolique.
Alors Arthur Quenet, je ne sais pas si vous avez entendu ce que vient nous dire Cédric Mas, mais qui nous dit donc oui, certes c'est une victoire du camp finalement pro-Assad, mais pas forcément de la Syrie, du régime syrien. Est-ce que là-dessus vous êtes d'accord? C'est surtout une victoire des alliés de Damas, cette bataille d'Alep?
Tout à fait. Alep est un tournant d'abord pour le déploiement irano-russe en Syrie. Le régime, lui, reste très très affaibli et sans ses alliés, on se demande comment il pourra reconstruire Alep et finalement se durer sur le long terme.
Donc ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que cette guerre finalement, elle n'est pas du tout finie. On est à un tournant, on entre dans une nouvelle séquence de la guerre en Syrie.
Exactement, le régime a gagné une bataille, absolument pas la guerre. Maintenant, la reconstruction d'Alep pose un énorme problème. Des millions de déplacés se retrouvent un peu partout en Syrie. Le régime peut être face à une nouvelle insurrection sitôt qu'il aura fini avec celle-ci. De plus, plusieurs poches insurgées continuent à exister, notamment sur Idlib, dans le sud de la Syrie également. Et la question de la prise de la ville de Raqqa est également essentielle pour la continuité du conflit.
Cédric Mas, sur cette possibilité d'une nouvelle insurrection qui succéderait à la séquence Alep, vous partagez l'analyse?
Tout à fait, c'est ce que justement je signalais. Tout va dépendre maintenant de la capacité que vont avoir les rebelles de pouvoir réagir et rebondir et tirer les leçons d'une défaite qui est implacable, qui est incontestable à Alep et qui est une défaite qui s'échelonne, qui s'est... échelonné sur 4 années quasiment, entre 2012, fin 2012, début 2013 et 2016. Là, je signale également, en termes d'affaiblissement du régime, il ne faut pas oublier que l'État islamique vient de lancer une offensive à Palmyre, profitant justement de la mobilisation des effectifs sur Alep, ce qui montre bien aujourd'hui que même avec le soutien à bout de bras et massif de l'Iran et de la Russie, le régime n'est plus capable de monter plusieurs offensives à plusieurs endroits en même temps. C'est-à-dire que quand il lance son offensive sur Alep, il dégarnit ses autres fronts, et particulièrement le front de Tadmor-Palmyre. Et l'État islamique a attaqué Palmyre en visant particulièrement les champs gaziers. Ce soir encore, il vise un champ gazier à l'est de Homs. Et en privant de gaz le régime, il altère sa capacité à fournir de l'électricité et à maintenir un semblant de vie quotidienne dans les zones qu'il contrôle, et particulièrement à Damas, et aggrave son endettement puisqu'il est obligé d'importer des ressources naturelles dont il pourrait disposer, pour partie en tout cas. Et donc c'est l'impact de cette offensive va bien au-delà de la situation militaire, puisque là, à l'orée d'un hiver qui est quand même assez rude, même les zones du gouvernement voient leur vie dégradée. J'ai entendu parler autour de Damas de rationnement d'électricité 22 heures sur 24 dans les zones du gouvernement.
Arthur Quenet, je voulais vous poser des questions sur l'opposition. Alep, c'était la principale carte de l'opposition qu'elle a donc perdue en perdant Alep, même si bon, il reste encore quelques réduits, je le disais dans l'introduction.
Tout à fait. Alep, c'était avant tout un modèle institutionnel développé par l'insurrection, avec des élections régulières, c'est-à-dire pour élire la municipalité, et surtout une démonstration de la capacité de l'insurrection à gérer des centaines de milliers d'habitants. Alep, c'était également un sanctuaire en termes de population pour le recrutement de l'insurrection. Ça lui assurait une certaine assise qui permettait aux différents groupes de se régénérer dans la région. Et bien, l'insurrection vient de perdre ce sanctuaire.
Et est-ce que pour vous, cette défaite, c'est le symbole d'une opposition qui ne peut pas se constituer comme une alternative politique, ce qui était quand même l'objectif au départ?
C'est avant tout la défaite de l'ensemble des pays qui soutenaient l'insurrection et qui en fait ont participé à la diviser, à la radicaliser, à l'islamiser. Les différents soutiens de l'insurrection n'ont jamais été unis et ça a poussé la fracture, accru la fracture au sein de l'insurrection.
Peut-être Cédric Mas là-dessus, sur la défaite des soutiens de l'insurrection.
J'abonde et je rajoute en disant que c'est aussi la défaite des groupes armés, puisque si Alep était un laboratoire d'une expérience, d'une vie sociale, d'une vie publique libérée de l'emprise de la dictature de la famille du clan Assad el-Assad Maklouf, il n'en demeure pas moins que au niveau militaire, à Alep, les rebelles n'ont jamais démontré ni des capacités de leadership, ni des capacités d'unité, hein, parce qu'il y a une division, il y a une division permanente. Songez, vous avez cité l'offensive finale du 15 novembre, mais début novembre, dans la poche, il y a encore des affrontements entre groupes insurgés dans la poche, encerclés pour des armes et pour différents autres éléments. Donc c'est assez intéressant de voir que Alep, c'était une expérience très intéressante de vie au niveau de la gestion, mais qu'au niveau militaire, ça signe les limites d'une rébellion qui n'a jamais pu s'unir, qui n'a jamais pu franchir le pas d'une professionnalisation, phagocytée d'une part, comme l'a dit Arthur Kenney, par l'influence des différents soutiens qui parasitent les efforts des Syriens pour combattre pour leur liberté, mais aussi parasitée par les interventions de groupes à l'intérieur de l'opposition ou de la société syrienne qui poursuivent leur agenda propre. Je signale quand même que les Kurdes à Alep et dans la région d'Alep jouent un rôle très particulier puisqu'ils se sont alliés objectivement au régime et ont affronté à plusieurs reprises et profité des défaites de rebelles pour augmenter leur emprise territoriale, et également les groupes djihadistes qui sont venus aussi brouiller les pistes et poursuivre leur propre agenda.
Arthur Kenney veut vous répondre, je crois.
Oui, juste pour ajouter que le côté militaire, les rebelles ont réussi à reprendre beaucoup de territoires sur Alep, notamment en 2013, où ils assiégeaient totalement l'ouest d'Alep, tenu par la CIM. Ils n'ont pas été que divisés dans la ville, au contraire, en 2013, ils arrivent à enchâtrer également les païsens. Et les coalitions de brigades convois rebelles sont extrêmement solides, parviennent à repousser à plusieurs régimes. Après, ce qui s'est passé dans les derniers mois, c'est qu'ayant moins de ressources, moins de nourriture, moins d'armement, c'est vrai, les groupes ont commencé à se combattre les uns les autres autour pour tenir certains points stratégiques où il y avait des réserves de nourriture et de munitions. Mais ça vient vraiment à la fin de la mobilisation militaire, à un moment où l'insurrection est extrêmement rapide.
Et on a beaucoup dit, Arthur Kenney, qu'Alep est évidemment un terrain très stratégique pour la rébellion. Est-ce que, avec cette défaite, cela signifie que l'opposition devient une forme de guérilla cantonnée à des villes beaucoup plus moyennes, des villes rurales aussi?
C'est exact. Et beaucoup de groupes de l'insurrection ont déjà commencé leur mutation en devenant des unités beaucoup plus flexibles, capables de faire des missions clandestines au sein des zones du régime, avec beaucoup d'assassinats de cadres du régime. Et beaucoup de groupes changent de stratégie, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent plus à tenir du terrain et du coup être faillibles face à l'invasion russe et aux milices iraniennes, chiites. Les groupes de l'insurrection se transforment donc.
Alors, Cédric Mas, je voudrais qu'on en vienne peut-être à cette victoire, on l'a déjà un petit peu abordé, des soutiens de la Syrie. C'est une victoire de la Russie, c'est une victoire plutôt de l'Iran, vous nous disiez tout à l'heure.
Alors, en effet, Alep est surtout, et ça on le découvre en creusant un petit peu, en faisant des recherches, il faut comprendre qu'Alep est un lieu d'investissement de l'Iran depuis très longtemps, puisque dès les accords de partenariat de 1975, donc avant même la révolution iranienne, il y avait déjà un investissement à Damas et à Alep. Alors, c'était les deux plus grandes villes, certes. Alors, il y a quelques lieux importants pour les chiites, pour leur religion, mais c'est aussi un investissement très important, culturel, politique. La moitié des résidents iraniens en Syrie vivent à Alep, déjà avant le conflit, les chiffres du recensement de 2010 notamment. Et également un investissement militaire, puisqu'au sud de Alep, vous avez As-Safira notamment, qui est une usine de missiles, qui était utilisée pour fabriquer les projectiles livrés ensuite au Hezbollah. Il faut bien comprendre que cette usine a été menacée lors des offensives dont parlait Arthur Kenney en 2013, des offensives rebelles. Le village de As-Safira a été pris, mais pas l'usine qui était tenue. Et un des plus hauts gradés d'Iraniens engagés en Syrie s'est déplacé en urgence au sud d'Alep pour aller voir ce qui se passait.
Donc un lien fort historique avec l'Iran, voilà. Et là sur le terrain une vraie victoire aussi de ces milices avec beaucoup de combattants iraniens.
beaucoup de combattants iraniens, les centres d'entraînement, puisque toute la zone autour de la Safira qui a été dégagée en 2014, à partir de 2013-2014, est devenue un lieu d'entraînement à la fois de la force de défense nationale recréée, l'espèce de milice recréée pour suppléer à l'armée syrienne et aux défections, et également des milices chiites. Mais c'est très intéressant de voir que c'est plus une victoire du soutien iranien que du soutien russe, puisque les Russes notamment avaient beaucoup investi sur l'offensive sur Palmyre. Et finalement, l'arbitrage qui a été fait au sein de ce conglomérat Damas, Téhéran, Moscou, a privilégié Alep par rapport à la perte de Palmyre, ce qui montre que c'est surtout l'influence iranienne qui pousse ses pions.
Alors là-dessus, Arthur Kenney, est-ce que vous partagez l'analyse? Est-ce que pour vous, cette victoire, c'est avant tout une victoire iranienne ou vous y voyez plus la main russe?
Tout à fait. D'autant plus que l'Iran a largement reconstruit, restructuré les services de sécurité et les forces militaires du régime. C'est-à-dire que l'armée syrienne est actuellement extrêmement faible, et c'est davantage les réseaux miliciens tenus et contrôlés par l'Iran qui font la guerre.
Et alors, avec quelles possibles conséquences, Cédric Mas, que cette victoire de l'Iran sous-main dans cette bataille ?
Alors, la difficulté, c'est qu'on constate, par exemple, autour de Damas, des processus qui sont dénoncés par un certain nombre de Syriens de d'iranisation ou de chiitisation des régions, des commerçants qui sont expropriés, auxquels on donne un petit pécule et qui doivent laisser leurs biens à des chiites iraniens qui viennent s'installer. Donc, il y a ce processus-là. Peut-être que c'est ce qui va se passer à Alep. On n'en sait rien, puisqu'il peut aussi y avoir une évolution.
Ma question, elle était plus géopolitique finalement. Est-ce que ça va changer la donne sur le terrain géopolitique que cette victoire avec très iranienne selon vous?
Alors, la Syrie est le hub stratégique de l'influence iranienne vers l'ouest, donc vers le Hezbollah, vers le sud Liban, vers les régions, les pôles communautaires chiites ou rattachés comme les alaouites qui ont été rattachés au chiisme. Donc dans ce hub stratégique, il est bien évident que la région de Damas, de Qusair, la liaison entre Damas et le Liban est très importante. Mais après, entre Damas et l'Iran, vous avez l'Irak et vous avez des zones qui sont notamment toute la Badia, le désert irako-syrien, sunnite, contrôlé aujourd'hui en grande partie par l'État islamique, qui sont des lieux qui ne sont pas passables. Et donc par Alep, vous pouvez contourner. Donc il est possible que l'Iran joue une carte géographique, il suffit de regarder une carte. Si l'Iran veut établir une connexion terrestre avec cette projection, cette capacité de projection jusqu'à la frontière libanaise, c'est plutôt par le nord, en utilisant éventuellement un arc kurde, que ça pourrait se faire. Bon, évidemment, c'est de la grande géopolitique, mais c'est intéressant de signaler que les Iraniens savent lire une carte et Alep est un passage obligé pour eux.
Arthur Kenney, sur ce point, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Cédric Mas?
L'arc kurde me semble très fragile pour Téhéran. Cependant, je rejoins Mas sur le fait que, évidemment, l'Iran cherche une continuité entre l'Irak et la Syrie et est en train de l'obtenir. L'État islamique perd du terrain un peu partout et ce sont des victoires sur le terrain qui sont iraniennes. La bataille de Mossoul, qui est également en cours, est menée par l'armée irakienne qui est elle-même restructurée par les forces iraniennes et accompagnée de milices chiites. Qui scellera la route Téhéran-Bagdad-Damas? Ce sera évidemment la libération donc la stabilisation de la province d'Anbar en Irak et la reprise de Deir-ez-Zor où sont encerclées une garnison du régime.
Cédric Mas, peut-être il nous reste une minute, un mot aussi du tournant possible que peut avoir cette bataille pour les Nations Unies qui ont été très critiquées pour leur paralysie. On sait qu'il y a un nouveau secrétaire général qui va prendre ses fonctions le 1er janvier, qui a d'ores et déjà annoncé des réformes. Est-ce que vous voyez dans cette chute d'Alep un possible déclic ou pas du tout ?
Alors, je vois pas du tout de déclic, étant entendu que le modèle de l'ONU s'est essoufflé depuis des années. Ce n'est pas la première fois que l'ONU se heurte au veto d'un des membres du Conseil de sécurité. Il n'y aura pas de déclic. En revanche, une prise de conscience de la communauté internationale de la nécessité de trouver d'autres systèmes d'organisation des relations internationales qui permettraient de suppléer au blocage lié à l'utilisation du veto de l'ONU. Mais je ne vois pas la Russie accepter une réforme qui la priverait de son droit de veto, ou les États-Unis d'ailleurs, ou la France, ou un autre des cinq membres.
Rappelons qu'il existe une réforme qui a été proposée par la France et le Mexique de suspendre le droit de veto en cas de génocide ou d'atrocité de masse. Elle a obtenu plus d'une centaine de soutiens, je crois, mais pour l'instant, évidemment, pas le soutien nécessaire, par exemple, de la Chine ou de la Russie qui ont ce droit de veto au Conseil de sécurité. C'est déjà la fin de ce débat. Merci. Merci beaucoup à nos deux invités. Arthur Kenney, qui était avec nous par téléphone, docteur en sciences politiques, enseignant à Paris 1. Cédric Mas, merci. Historien, avocat, on peut vous lire sur le blog curultais.fr. Merci à Florence Mons et également à Hélène Avril.